La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand à mes côtés, le coach d'RMC Running, le maître Yodu. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Et toi, t'es en forme?
Impeccable, bon. Ça roule, tout va bien.
Magnifique. Tu vas devoir chausser les chaussures de trail aujourd'hui, mon petit Yoann.
Avec des gros crampons ou des petits crampons là? Là, il faut des gros.
Là, il faut des gros parce que la météo est imprévisible. C'est le 4e épisode de notre série consacrée au Hoka UTMB Mont Blanc. On suit les trailers pro ou amateurs jusqu'à cette grande semaine de la fin du mois d'août. On est à 15 semaines de l'échéance, hein, donc ce sera le plus grand événement trail en France, un des plus mythiques au monde. On va faire le point sur la préparation de Marilyn Nakache qui sera avec nous, Marilyn vainqueur de la TDS l'an dernier, et de Nico Van Den Elsken, l'éco-aventurier adepte des défis extrêmes qui avait couru plus de 100 marathons en plus de 100 jours. Voilà une belle aventure, il avait fait également le GR34 et il a un gros défi qui l'attend au mois d'août. On fera le point donc sur leurs deux situations. On aura une séance du jour qui va te plaire, là ça concerne trailer, runner et tous les fans de course à pied. Le renforcement musculaire Yoann. Ça, c'est important. C'est même prépondérant pour les épreuves de trail longue distance. Et on a rappelé un ami. Seb Cornette sera avec nous, fondateur de l'école de trail, auteur du livre « Moins courir pour mieux courir ». On l'avait mis en avant dans un podcast il y a quelques semaines. Donc, il pourra nous donner tous ses précieux conseils. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, sortez les tapis et les haltères. Ça va travailler fort aujourd'hui.
RMC Running.
Et ils sont en direct avec nous, Marilyn Nakache. Salut Marilyn.
Salut.
Comment ça va Marilyn?
Bah ça va très bien, là je me suis dépêchée de revenir de mon tour de vélo pour être à l'heure, donc ça va.
Magnifique,
pour que... Oui, j'échappe à la pluie parce qu'il se met juste à pleuvoir.
Et t'es où alors? Parce que toi tu vis toujours dans ton van, donc tu t'étais où en ce moment?
Là bah écoute, je suis allée faire un petit tour au bord des calanques de Théoul.
Ah super.
Pas mal le matin de bonheur comme ça, avec un petit café au retour.
Magnifique. Impeccable. Ce que je précise à ceux qui nous écoutent, que nous on enregistre à 10h du matin, donc Marie a déjà fait un entraînement ce matin au moment d'enregistrer. Nico Van Den Elsken, pardon, en direct avec nous aussi. Salut Nico.
Salut tout le monde.
Comment ça va? T'es où toi, Nico?
Nico, il a déjà fait un marathon alors.
Ouais,
qu'il
est... c'est ça.
non, bah écoute, moi je suis dans des paysages un peu moins idylliques. Moi je suis du côté de Lille. Hein. Alors mon entraînement, je le ferai plutôt là à midi. Je l'ai pas encore fait, donc non, j'ai pas encore fait mon marathon. Mais en tout cas, c'est moins facile d'aller chercher du dénivelé dans le Nord, mais en tout cas, je fais pas mal de beaux allers-retours sur des sentiers sur les terris pour aller chercher du dénivelé. Voilà.
Oui, il faut gravir les terris là, évidemment. Et puis Seb Cornette, un ami qui est là. Salut Seb.
Salut Benoît, salut toute l'équipe.
Bon, très heureux de te retrouver. Comment ça va, Seb?
Moi, ça va super. Écoute, à entendre et partager avec les champions qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment très cool. Et puis j'ai hâte d'échanger parce que j'ai écouté les précédents podcasts et ça avait l'air riche et je suis vraiment très heureux d'être là.
C'est la chance qu'on a, t'as raison Seb, c'est qu'on a des profils complètement différents. Et d'ailleurs, on salue tous ensemble Mao Becker-Granier, hein, qui est journaliste RMC, qui va découvrir le grand UTMB à la fin du mois d'août. Elle a fait Snowdonia le week-end dernier, le 100K au Pays de Galles, elle a terminé 5e féminine. C'est vous dire la performance, donc on la félicite, magnifique.
Oui.
Et on aura son débrief a priori lors du prochain épisode. Bah, allons-y sur le point sur les préparations. Marilyn, où est-ce que tu en es? Est-ce que toi aussi tu as des courses préparatoires qui arrivent? Tu es dans quel état physique, toi qui es, on le rappelle, une sportive professionnelle, hein. C'est en tout cas ta passion et ton métier.
Bah écoute, tout va bien. Moi j'ai Moser Samba UTMB qui approche, qui est le 1er juin bientôt.
Ouais.
Et là, j'ai fait une course de prépa pour Mozart il y a la semaine dernière, le Nivolé Revard de 60 km.
Ça s'est bien passé?
Ben, impeccable. Écoute, j'ai gagné, donc tout contente. Tout contente. Après, j'étais au niveau fatigue, je suis arrivée sur de la fatigue en fait, parce que vu que c'était une course de prépa, j'avais fait une belle semaine avant et j'ai fait une belle semaine après aussi. Donc là, je suis bien fatiguée. Je suis dans un état... je crois que c'est la dernière semaine de charge là, que je fais avant le Mozart 100 by UTMB.
Ok, et en termes d'heures d'entraînement par semaine, t'en es où là, Marilyn, sur...
Alors moi ça varie beaucoup, mais la semaine dernière j'ai fait 25 heures.
Ah oui, d'accord.
25 heures, mais je fais beaucoup de vélo, un peu de natte, un peu de muscu, enfin tout ça, tout ça, ça mixé.
Ça va plaire à Seb Cornet, ça. Les sports mixés, ça va lui parler. Nico, t'en es où toi justement à Lille? Est-ce que tu fais du foncier? Je rappelle juste ton périple qui t'attend donc au mois d'août. Tu vas participer au Marathon pour tous et ensuite de Paris, tu partiras direction Chamonix. Donc tu vas tout faire en courant pour prendre le départ de la TDS. Hein. C'est le programme, Nico.
Ouais, c'est ça, c'est le programme. Et puis l'objectif, ça sera d'aller à la rencontre de plein d'initiatives locales durant cette route avec Julien, puisque je serai avec Julien Ragnier aussi, ouais. Vous avez déjà eu dans le podcast.
Tu fais partie de l'aventure.
Ouais. Écoute, ouais, la préparation, bah, ça avance bien. Je monte en volume au fur et à mesure, puisque c'est vrai que ça a été, je vous l'avais dit la fois dernière, mais après le record du GR34 là, en juin 2023, j'avais un peu, je m'étais un peu calmé sur la course à pied. Donc là, je reprends bien quand même depuis pas mal de semaines avec le coach. Et alors, ce qui n'est pas évident, c'est ce que je vous disais un peu, c'est que dans le Nord, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il faut faire pas mal d'allers-retours pour chercher du dénivelé. Donc, je pense qu'on travaille pas mal le mental parce que travailler beaucoup de fois la même côte, voilà. Mais non, ça commence à bien monter en volume avec quand même des belles semaines, plus mon travail à côté. Donc, ouais, c'est assez intense, ouais.
Même question, en termes d'heures d'entraînement par semaine, t'es à quel volume ?
Alors, je suis pas à 25 heures, mais non, je suis plutôt à là. La semaine dernière, j'ai fait environ 15 heures, je pense. Voilà, donc ouais, ça commence à bien monter, ouais.
Là, on est sur d'énormes volumes, Johan. On s'adresse à des ultra-trailers, oui. Hein, qui sont habitués justement à mettre leur corps à rude épreuve sur une longue durée. Évidemment, il faut l'adapter si on prépare l'UTMB, mais qu'on est moins engagé dans la pratique sportive.
Ouais. Ouais, non, là, on a affaire à quand même des aguerris, hein, Nico. On l'a présenté, il a fait 100 marathons en 100 jours. Donc déjà, je peux te dire qu'en termes de volume et de capacité de charge d'entraînement, c'est quand sûr. Même... un mec qui a un dur au mal, tu vois, qui a l'habitude de ce genre d'effort et de ce style de travail. Et Marilyn, bon, on la présente plus avec toutes les courses qu'elle a gagnées depuis plusieurs années. C'est ses habitudes, c'est son travail, c'est pareil. Ouais. Quand on est débutant et qu'on monte sur les distances ou sur l'UTMB, là, les profils qu'on présente, c'est pas le commun des mortels. C'est pas, il faut pas copier ces gens-là parce que c'est des gens qui ont l'habitude, c'est des gens qui ont des protocoles de récupération à la pointe un peu pour pouvoir enchaîner et choses comme ça. Donc effectivement, c'est intéressant d'écouter les histoires, mais c'est pas recopier chez soi. Si on est purement amateur, d'aller faire 25 heures de course dans la semaine.
Hein. Ouais, c'est sûr. C'est des profils atypiques, Seb Cornet. Toi aussi, tu entraînes des pros et des amateurs, donc ça veut dire que, pareil, tous les plans sont définis en fonction de la capacité de tes athlètes. Au niveau des charges qu'on a entendues de Marilyn et Nico, ça te surprend pas, Seb ?
Oui, effectivement, et je rejoins ce que vient de dire Yodu, amène à ce que vient de dire Maître Yodu, parce qu'effectivement, c'est génial d'avoir des... De narrer l'histoire de ces champions et qui ne représentent que peut-être 2% ou 3% des coureurs. Et effectivement, aujourd'hui, ben, y a une charge. Et en plus, on l'a dit, on a entendu, Nico, ben, lui, il travaille. Aujourd'hui, Marilyn a la chance, enfin, j'aime pas dire la chance parce qu'elle s'est donné la chance d'être professionnelle plutôt. Et du coup, et ben, évidemment, il y a une charge, on parle de charge d'entraînement, mais aussi la charge externe qui est inhérente à chacun. Et j'aime bien rappeler une chose en formation, c'est qu'il y a autant de plans d'entraînement que d'athlètes. Donc du coup, et ben, effectivement, on ne va pas entraîner Nico pareil qu'on va entraîner Marilyn, déjà parce que c'est un homme et une femme, et puis parce qu'ils ont certainement des charges externes qui sont différentes. Et puis après aussi, des capacités de récupération différentes. Donc c'est génial de s'en inspirer, dans la motivation, mais attention parce qu'effectivement, essayer de recopier ce que fait Marilyn ou ce que font Nico, ben non, c'est ce qui va justement créer de la blessure et du surmenage, voire du surmenage non fonctionnel, voire du surentraînement. Donc c'est génial de les avoir à l'antenne et pour nous motiver, mais attention de ne pas les recopier. Comme j'aime bien dire, ne faites pas ça chez vous.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, nous, c'est ce qu'on dit avec 80% des invités, parce qu'il faut pas
s'inspirer pas recopier
de la plupart des barjots qu'on reçoit toutes les semaines. Marilyn, on rappelle que tu fonctionnes avec un coach. Toi, tu es coach sportive aussi, mais tu as quelqu'un qui t'encadre ta préparation. Oui. Est-ce que concrètement, on peut avoir une idée de ce qui t'attend, par exemple, la semaine prochaine, les séances que tu vas t'infliger à partir de lundi?
Vous êtes sûr que vous voulez savoir?
Oui.
Alors, bah, semaine prochaine, je vais décharger un peu. Donc, je vais faire plutôt ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai eu une séance de VMA sur piste. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, histoire de faire un petit rappel de vitesse quand même. Parce
et c'est quoi, par exemple?
Parce que faire du long, on s'encroute un peu.
Ouais.
Je fais des 200 mètres jusqu'aux 1000 mètres et en pyramide.
Ah, vraiment du cours, ok.
Oui, parce que ouais, moi c'est un peu mon défaut en fait. J'ai tendance à être un vieux diesel et faire du long et m'encrouter un peu. Donc là, ça faisait longtemps, donc
ça,
voilà.
Ça fait du bien, ouais. Ça décrasse un peu.
J'ai fait une séance d'endurance fondamentale, donc de 2 heures avec quelques passages un peu plus rapides sur 1 heure. Enfin, plus rapide à 70% de VMA. Mmh. J'ai fait une séance de descente. Des fois, ça m'arrive de faire une séance de côte. Là, j'ai fait une séance de descente rapide. Donc, je monte doucement et je descends très, très rapide pendant 2 minutes. Donc, ça m'a duré 2-3 heures. Et le week-end dernier, je suis allée courir 60 bornes toute seule. Alors là, ça fait travailler le mental aussi, je vous le dis.
Ah ouais.
J'ai fait 60 km, 3000 mètres de dénivelé. Je me suis un peu perdue. Donc, j'en ai eu pour 8 heures toute seule.
T'avais RMC Running dans les oreilles,
j'espère. Ah bah j'espère.
Oui, non, mais tu rigoles. Mais j'ai découvert un super casque à conduction osseuse là depuis pas très longtemps. Et quand on fait des sorties longues comme ça, je crois que ça va devenir mon gros copain.
Ben oui. Et l'avantage de ces casques, c'est que t'es pas coupé de l'environnement. Donc
exactement.
Parce que
je déteste avoir les oreillettes dans les écouteurs dans les oreilles, parce que se couper de la nature.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça doit te plaire, tout ce que tu as entendu, Johan, parce que là, il y a vraiment de la mixité dans l'entraînement, quoi. Il y a un peu de tout.
J'ai eu un petit peu de vélo aussi en récup.
Ah, en plus, bah voilà.
Parfait.
Oui,
un
petit peu de vélo, un peu de natation aussi.
On dirait un plan d'entraînement qui est ouvert. En fait, il y a tout. Il y a de la côte, il y a de la descente, il y a de la VMA, il y a de l'entraînement croisé, il y a de la sortie longue, Johan.
Tout ce qu'il faut. Voilà. Tous les ingrédients, tu vois. Clac-clac de l'endurance fondamentale, la sortie longue de 60 kilos, du travail de renfo spécifique en descente, de la VMA pour aller courir un petit peu vite de temps en temps. Non, ça me plaît bien.
Ça plaît à Seb aussi, j'en suis sûr.
Ah, clairement. Ouais, clairement. Et puis, c'est assez, assez rigolo parce que Marilyn met le doigt sur quelque chose qui est même très important et souvent négligé par les gens qui font du long, de l'ultra-distance. C'est, la VMA, la PMA, la puissance aérobie, qui n'est pas notre filière dans l'activité, elle est primordiale. Et en fait, pas uniquement pour les athlètes de très haut niveau, hein, pour tout le monde, justement, pour développer nos capacités à aller longtemps, et ben, il faut aller vite pour justement développer notre puissance aérobie. Donc, tout me plaît chez Marilyn et j'ai aucun biais. On s'est croisé qu'une fois avec Marilyn, donc on est ni amis, ni je suis son coach. Donc voilà, il n'y a pas de biais entre elle et moi. Ça me fait plaisir d'entendre des entraînements bien menés.
Marilyn,
pour faire plaisir à Sébastien, j'ai eu une séance de muscu aussi.
Ah, bah voilà, allez, il manquait ça.
Ouais, il me lance des fleurs, moi aussi. Ah,
très bien, bravo. En termes de casse musculaire, c'est la séance qui laisse le plus de traces, c'est la séance de descente, Marilyn?
Alors, je sais pas trop, parce que moi, j'ai vraiment la chance de bien récupérer, d'avoir jamais de courbatures. Enfin, c'est très, très rare, sauf après un UTMB. Hein, mais... Et je dirais que... Ouais, je sais même pas là, les 2 minutes de descente, même si je les ai fait 14 fois. Non, j'ai pas eu. Peut-être plus quand même la sortie longue de dimanche. Ouais,
3000 de dénivelé. 3000 sur 60 km.
Des descentes. Mais bon, j'ai la chance de bien récupérer. Hein. Donc,
Nico, quelle a été ta semaine d'entraînement ou quelle va être ta semaine d'entraînement? Est-ce qu'on peut rentrer dans le concret avec ta préparation aussi?
Là sur la semaine qui arrive, ça va un peu plus s'alléger parce que j'ai un gros emploi du temps. Donc mon coach, il fait aussi en fonction de ça. Donc ça, j'ai la chance aussi de m'adapter à ça parce que vu que je bouge pas mal aussi dans le cadre de mon boulot avec l'asso, voilà. Mais si je reviens par exemple sur la semaine dernière, c'est aussi une bonne compile. Il y a toujours du travail avec des courses. Pareil, tu vois là, à midi, je dois faire une course aussi en fractionné long. Donc ça, c'est je fais peu de fractionné court, mais par contre du fractionné long sur du 3 fois 2 minutes inséré dans des séances, j'en fais pas mal. Du travail en côte aussi, on essaie d'en inclure toujours. Donc il y a un mix en fait, parce qu'on essaye de trouver la bonne préparation aussi pour faire à la fois ces 700 km qui vont mener jusqu'à l'UTMB, enfin jusqu'à la semaine de l'UTMB, où on va être plutôt sur pas beaucoup de dénivelé, mais pas mal d'endurance. Et puis après, la TDS qui, elle, va amener beaucoup de dénivelé. Donc on essaie de faire ce mix-là. Et puis, par exemple, là, si je prends la fin de semaine, moi, c'est que j'ai fait deux grosses séances là, de montée-descente à n'en plus finir. J'ai fait 2 heures là, vendredi sur un chemin assez court. Donc c'était assez... dire, ok, mais qu'est-ce qu'il faut à aller toujours sur les mêmes portions? Et c'est vrai que le lendemain, les jambes étaient un peu cassées. Donc voilà, la semaine dernière, on a cassé pas mal de fibres musculaires quand même. Puis cette semaine, ça va être un peu différent. Et puis après, j'essaye aussi d'insérer du vélo. Mais bon, ça, mon coach m'engueule souvent et c'est pas bien. J'ai plus de mal à en faire. Donc voilà, il faut que j'en fasse plus.
Ouais,
voilà.
C'est sûr. Et puis le problème du vélo, c'est que ça prend du temps. C'est toujours la même chose. C'est que si en plus là, tu dois gérer le boulot et l'assaut.
Ouais. Les beaux jours reviennent. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Hein.
Ouais. Ouais, mais il habite à Lille, n'oublie pas.
Ah, les beaux jours, donc, pardon, oui. L'hiver est encore là.
C'est ça, les beaux jours à Lille, ça va pas, non? Quelle idée.
Il fait trop beau, là. Non.
Ah, ouais, ça va, pour l'instant. Micro-climat aujourd'hui, mais profites-en, ça va pas durer, du coup. Allons-y sur le thème du jour. On a pris un bon expert pour parler du renfo musculaire. Vous l'avez entendu, les champions le pratiquent. Il faut, d'ailleurs, c'est essentiel de le pratiquer et au quotidien et faire de grosses séances. Est-ce que le renfo, déjà, Seb, première question. Est-ce que pour un ultra, le renfo est très spécifique? Est-ce que les zones touchées sont particulières? Est-ce que tu vas fixer justement des exercices à faire en priorité? Ou est-ce que le renfo d'un ultra-trailer ressemble au renfo d'un marathonien et d'un coureur de 10 km?
Alors, elle est hyper intéressante cette question, parce que la réponse primaire pourrait te dire oui, ça va être différent. Mais au final, pas tant que ça, parce que qu'est-ce qu'on appelle renforcement aussi? Donc déjà, dans la question, c'est est-ce que renforcement, c'est uniquement des choses à poids de corps? Est-ce que est-ce qu'on passerait par de la charge? Quand Marilyn m'a dit, elle va me faire plaisir, je vais faire plaisir à Seb, j'ai fait du renforcement. Oui, mais quelle était la séance? Dans quel cycle tombait cette séance? Et comment l'a-t-elle placée? C'est pour ça que moi, j'adore hein, quand on me fait des dédicaces sur le renforcement. C'est génial, mais il faut attention. Je sais aussi que plus tu prends, plus ton aura grandit, plus la caricature sur ton discours peut être grand. C'est le cas en ce moment. Donc du coup, je vais essayer d'être plus précis dans ma réponse. C'est-à-dire que il y a quand même un socle commun. Il y a un socle commun. Que tu fasses du marathon jusqu'à l'ultra trail, il y a un socle commun, c'est de développer sa force. On a parlé de la puissance aérobie ou de la VMA, c'est un socle commun entre le marathonien, même le coureur de 10, jusqu'à l'ultra endurance. En fait, ce socle commun, dans le renforcement, il est aussi là. Donc, ma priorité, c'est évidemment de faire du renforcement. Alors, moi, je nomme renforcement tout ce qui est à poids de corps. Donc, je fais du renforcement à poids de corps dans un premier temps, puis après, je vais faire un développement de la force. Donc, si tu veux, on peut très bien dire que j'ai 10 semaines qui pourraient être communs. Je pourrais avoir un coureur qui prépare un marathon comme un coureur ou une coureuse qui fait l'ultra, je ferais un socle commun. Puis après, j'aurais des rappels de cette force en fonction de la thématique. Marilyn, je vais me prendre en exemple Marilyn parce qu'elle nous a dit qu'elle avait fait des séances de descente. Mmh. Une avec de la descente très intensive. Ça, en fait, ça pourrait être un rappel de force. Mais du coup, j'aurais mis avant, je l'aurais fait passer sous la barre parce que j'aurais voulu développer ma force comme on veut développer sa puissance aérobie. Donc oui, il va y avoir une spécifique quand on rentre dans le spécifique vraiment de la discipline. Mon renforcement sera différent du marathonien à l'ultra, mais pas tant que ça en fait. Il n'y a pas une très très grosse différence. Là où on peut voir de la différence, ça serait plutôt dans les séances dites de rappel, qui seraient des séances plus spécifiques comme la descente, comme l'a fait Marilyn.
Je pensais quand même que c'était différent parce que, par exemple, si on compare Johan, la discipline de Johan et celle de Marilyn, on n'est pas sur le même type d'effort. À commencer par le dénivelé, c'est-à-dire que Johan pratique sa discipline sur des parcours ultra plats, alors que Marilyn est systématiquement quasiment en montée-descente. Je pensais que le renfo musculaire était différent.
T'as raison. Non, alors en fait, c'est pour ça que je te dis, il y a un socle commun. Puis après, dans la partie spécifique, oui, je vais certainement avoir un plus gros travail sur la phase excentrique parce que c'est la phase qui est déterminante dans le trail. Hein. On dit un trail se gagne en montée, ça se perd en descente. Du coup, on peut le dire à l'inverse, mais moi, je le dis dans ce sens-là. Effectivement, je vais avoir cette phase excentrique. Mais en fait, aussi, on oublie, même si c'est différent, dans le renforcement, en fait, c'est une contrainte musculaire. Vu que moi, mon but étant de développer la force, ben, je vais quand même vouloir toujours développer la force de mon marathonien. Tu sais, ce qu'on appelle le mur, et Yodu pourrait le confirmer, le mur du marathon est souvent vu uniquement comme une dégradation trop importante des glucides, mais c'est aussi une grosse dégradation de tissus musculaires. Et donc, la phase excentrique sur un marathon, elle est prépondérante à une bonne préparation. Donc oui, il va y avoir des parties spécifiques. Donc on va faire un peu plus de travail excentrique chez les ultra trailers, ok. Mais elle sera quand même un peu là. En fait, je parle uniquement de la force parce que trop souvent on dit bah si je veux faire de l'ultra, je vais faire uniquement de l'endurance de force parce que ben c'est plus spécifique. Tu vois, c'est un peu ta question. Oui, le marathonien va courir pour les meilleurs 2h10, ok, et puis l'ultra trailer va rester 20 et quelques heures, il y reste plus longtemps. Oui, mais dans le renforcement spécifique, il y a une différence qui est à la marge, et c'est peut-être souvent l'écueil qui est fait dans l'entraînement, c'est que bah, comme je fais de l'ultra, bah, je vais faire que de l'endurance de force. Or, quand tu cours, on l'a entendu, hein, Marilyn fait des sorties très longues. Elle fait son endurance de force là. Donc, est-ce que dans le renforcement, je vais refaire de l'endurance de force ? Pas nécessairement. Je vais plutôt aller faire des choses que je ne développe pas dans ma course classique, c'est-à-dire plutôt faire de la force. Et comme j'ai aussi besoin de faire de la force pour mon marathonien, les exercices vont être un petit peu différents, c'est-à-dire que je vais peut-être mettre beaucoup plus d'excentrique, de charge très très lourde, où je vais freiner ma charge pour l'ultra trailer. Mais c'est vraiment à la marge en fait. Les spécificités, évidemment il y en a, mais elles concernent 20% peut-être de l'entraînement.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final il y a un socle commun, même si on ne pratique pas on ne s'élance pas sur les mêmes distances. Johan, est-ce que toi tu planifies ton renfort musculaire, tu le pratiques beaucoup aussi, est-ce que tu as des cycles comme l'a dit Seb, ou est-ce que c'est un peu systématiquement la même routine ?
Non, ouais, comme l'a dit Seb, c'est vrai que en début de saison, tu as quand même ce que j'appelle la préparation physique générale, c'est-à-dire que ça va être du global, c'est-à-dire que je fasse, pour le coup, là, comme l'a expliqué Seb, que tu fasses du marathon ou du trail, c'est à peu près la même chose. L'idée, c'est de diminuer le risque de blessure, de gagner un peu en puissance, en efficacité. Et tu fais des exercices bateaux, poids de corps, juste pour te renforcer. Et après, c'est vrai que quand je rentre dans une prépa marathon, là, je vais faire plus du spécifique. Et pour le coup, moi, je vais faire ce qu'on appelle de l'endurance de force. C'est-à-dire que je vais répéter beaucoup de fois des exercices avec moins de charge pour pas prendre de force, mais plutôt pour que mon corps soit capable de répéter ce geste-là. Tu vois, typiquement, il y a l'année dernière, quand j'étais blessé au genou, je m'étais rendu compte qu'en faisant beaucoup de force, si tu veux, j'avais sur ma jambe gauche, ma jambe qui me faisait mal, en faisant des tests, je me suis rendu compte que j'avais la même capacité de force, j'avais autant de force sur ma jambe gauche que ma jambe droite. Par contre, au bout de 6 répètes, bah, j'avais plus du tout la même force, j'étais plus du tout capable de maintenir l'endurance de force. Alors qu'à droite, je pouvais tenir 10 répètes faciles, et à gauche, au bout de la sixième, ça s'effondrait. Donc, il y a ce travail aussi d'endurance de force où tu dois justement travailler tes muscles aussi à soutenir sur la durée.
Ouais. Question pratique à Marilyn et à Nico ensuite. Marilyn, tu nous as dit donc tu fais du renfort musculaire. Comment tu places tes séances ? Parce que ça, c'est l'éternelle question quand on veut charger ou quand on veut juste s'entretenir. Est-ce que tu places tes séances sur les entraînements difficiles pour faire vraiment des journées très très chargées, ou est-ce que tu mixes ? Tu vas plutôt placer une grosse séance de renfort sur, comme on s'est dit, de l'endurance fondamentale, une sortie un peu cool ?
Ça dépend. Après, j'évite d'en faire quand même beaucoup du travail de force après une grosse séance où j'ai déjà beaucoup d'impact musculaire. Alors ça peut être soit une séance un peu d'intensité, je peux pas, si je la fais le matin, je peux placer une séance de muscu l'après-midi. Après du vélo aussi, ça dépend en fait des fois, mais j'évite de le faire après une grosse séance qui m'a déjà beaucoup traumatisée.
Ouais. Est-ce qu'il y a des consignes par rapport à ça, Seb ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Tu préconises quoi, toi, de faire des grosses journées et de la relâche, ou plutôt de mixer, de placer le gros renfort sur les journées plus cool ?
Bah, ça va être... Alors, désolé, à nouveau, je ne vais pas répondre totalement à ta question parce que ça va dépendre de l'athlète. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si tu places deux entraînements, et comme l'a très bien dit Marilyn, ben, en fait, la séance de renforcement, c'est, en fait, c'est une séance de qualité. Ben, ils ne viendraient pas à l'IFRI, en tout cas je parle pour 80% des gens qui nous écoutent, de faire deux séances de qualité dans la même journée. On est à peu près sûr que ça ne sert pas à grand chose. Ou alors faire de la pré-fatigue. Donc du coup, laisser le temps déjà d'avoir récupéré sa séance qui était difficile. Puis si on a la chance d'être comme Marilyn, d'avoir de se consacrer à son entraînement, va faire un entraînement à 6 heures d'écart pour pas qu'il y ait d'interférence. Alors ça c'est un mot un peu scientifique, mais pour qu'on. En fait, si on rapproche trop les séances. Par exemple d'aérobie puis une séance de force, bah, c'est comme si on faisait de l'aérobie puis de la puissance aérobie en fait en vrai, et ben on, l'un et l'autre se desservent. Ça veut dire que bah, le fait de faire de la force trop proche d'une séance aérobie va avoir des interférences sur la capacité au corps à créer de la force justement. Donc on laisse, en tout cas dans la théorie, dans les papiers, c'est 6 heures. Puis après quand on a un peu plus d'expertise, ben, on peut là jouer en disant bon bah je vais me rapprocher. Moi souvent ce que je fais faire à mes athlètes que j'ai depuis longtemps et qui ont un peu plus d'expérience, c'est on fait de la séance de force, puis après seulement on va faire de l'aérobie. Et pas pour un effet de recherche de développement de l'aérobie, mais plutôt pour une recherche de pré-fatigue. Ouais. Et là ça va être très intéressant. Et là où... pour répondre à ta précédente question, là où ça va être intéressant pour les ultra-trailers, c'est de faire cette force-là. Une fois qu'on a fait son cycle de force pendant 6 semaines, ben, quand on fait un rappel, on va justement mettre ces séances de force, puis après, une séance aérobie. Alors ça, idéalement, ça pourrait être de la course, parce que c'est quand même la course qui va nous permettre d'être plus efficient dans nos objectifs. Mais ça pourrait être aussi du vélo, pourquoi pas, si on veut justement aimer ça. Mais une pré-fatigue, la force en pré-fatigue peut être très, très, très intéressante. Ouais. Et du coup, donner raison au titre de mon livre, c'est-à-dire en faire un peu moins pour que ça soit plus qualitatif.
Ouais, mais j'aime bien l'idée des jambes chargées par la muscu avant de s'envoyer une séance. Ça peut être un concept intéressant et à travailler. Nico, comment tu fonctionnes avec le renforcement musculaire, toi ?
Bah moi j'aime bien avoir ma petite routine tous les matins, d'ailleurs que je dois bien reprendre là, mais d'avoir ma petite routine de renforcement classique. Et puis après ouais, je dirais que c'est pareil, je privilégie plutôt, enfin par exemple là hier j'avais un jour de repos sans course, et par contre j'avais du renforcement musculaire, donc je privilégie de le faire quand je suis un peu moins chargé, quoi.
Et tu charges un peu plus en renfort musculaire, tu en fais un peu plus, tu fais une séance plus chargée quand tu étais sur une journée de repos?
Ouais, c'est ça, ouais, beaucoup plus chargé. Enfin voilà, c'est. Je pense que ce que je fais tous les jours, c'est un peu ma routine classique, c'est juste pour me dire ok.
C'est quoi, c'est gainage, gainage sur position etc. fixe.
Puis après, ouais, sur la séance spécifique, ouais. C'est plus intense, quoi.
Ouais. Donc on reconnaît les exercices quotidiens. C'est ce que tu nous disais, toi aussi, Yodu, c'est les conseils que tu as donné d'ailleurs lors du dernier épisode à Mao et à Stan notamment. C'est il faut conserver comme ça une petite routine quotidienne et se faire des rendez-vous choc dans la semaine, quoi.
Ouais, non, vaut mieux en faire tous les deux jours, faire 10 minutes, un quart d'heure tous les deux jours c'est classique, hein, abdos, gainage, tout le travail de la ceinture abdominale pour vraiment être solide, que le faire une fois dans la semaine et le faire pendant 30 minutes, tu vois. Ça doit devenir un peu le classique, après le footing en endurance fondamentale, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et là les sessions peuvent être intéressantes. Et c'est vrai que voilà, il y a de multiples exos, hein, tu vois, on pense tout de suite au gainage ventral de face statique, mais pas du tout, faut aussi se mettre un peu en déséquilibre, le faire sur une jambe sur les côtés, battre des jambes, faire les abdos, les dorsaux. Vraiment tous ces exercices là, ouais, ça doit être on doit avoir sa petite routine comme ça de 10 minutes tous les deux jours, c'est très important. Ouais.
Alors, rentrons dans le concret, dans le vif du sujet. Marilyn, quel type d'exercice tu pratiques dans le renforcement musculaire alors?
Ça dépend aussi. Disons quand je suis à la salle, alors j'ai aussi une petite routine, hein, où je fais, bon, ça j'en ai pas parlé, tous les deux jours un quart d'heure d'abdos, ouais, un petit peu des pompes, un peu du gainage, tout ça. Bon, ça voilà. Et par contre, quand je vais à la salle, je fais beaucoup travailler les jambes, donc en force, que ce soit les ischios, la pompe à presse aussi.
C'est de la poussée de charge en fait, c'est ça?
Ouais. Ah ouais, c'est ça, avec des charges assez lourdes. Ce qui est bien avec la salle, c'est que ça permet vraiment de ne pas faire de faux mouvements entre guillemets, que si on le fait au poids du corps tout seul à la maison, quoi.
Seb, tu as des exercices concrets à nous conseiller pour ceux qui écoutent, qui préparent l'UTMB comme Nico et comme Marilyn? Qu'est-ce qu'ils peuvent pratiquer du coup? Que ce soit à la maison, au poids de corps comme tu dis, ou en salle, ceux qui ont la chance d'avoir un abonnement et qui parfois, une ou deux fois par semaine, vont comme ça utiliser les machines.
Oui, des exercices, je vais en avoir quelques-uns. Peut-être rappeler quand même que la muscu, donc là, avec charge, n'est pas à destination uniquement de Marilyn Nakache et des athlètes de haut niveau. Au contraire, aujourd'hui, on a de nombreux papiers qui démontrent que développer sa force pure, que tu sois coureur débutant ou coureur confirmé, ça va vraiment t'aider. Donc du coup, déjà peut-être casser cette croyance. Mmh. Tout le monde devrait passer sous une barre, et à la salle. Et après, effectivement, commencer par des petits exercices. On les connaît tous, les exercices statiques, mais là où je rejoins totalement Yudu, c'est que il faut pas que ça soit que ça, parce que dans la course, je vais peut-être
apprendre quelque chose
aux gens, on bouge. Donc, commencer par du statique, ça c'est inhérent à toute pratique, et même si ça fait très longtemps que vous êtes coureur, marathonien ou ultra-trailer et que vous n'avez jamais fait de renfo, on passe par le statique. Puis après, on va y mettre des exercices. Donc, si on doit utiliser un exercice très classique, ok, la planche, mais après, très vite, la planche, il faut qu'elle se transforme en mountain climber. Donc, c'est une planche avec une flexion de hanche, parce que là, il commence à y avoir du mouvement. Et puis après, aussi paradoxal que ça puisse paraître, travailler ses abdos debout, c'est-à-dire être en appui unipodal et avoir des flexions de hanche, ça, c'est aussi du... on rentre dans du spécifique. Là, si on doit se concentrer uniquement sur les abdos. Après, pour tout ce qui est membres inférieurs, oui, on commence par la chaise, puis après, on va faire des squats. Puis après, on va faire des squats unipodales. Et après, on va faire des squats unipodales jump. Donc ça, c'est à poids de corps. Ouf. Et pour ce qui est... mais ça, il faut vraiment tous les auditeurs entendent qu'il y a une vraie chronologie. C'est-à-dire que... et je le dis parce que je l'ai rencontré en cours.
Oui, j'ai on n'y va pas à froid,
à convaincre... Ouais. Et puis surtout, même quand on a de l'expérience, je le dis parce que certainement cette personne va se reconnaître, j'ai eu en cours un marathonien, un vieux marathonien, dans l'âge et aussi dans l'expérience, qui ne faisait pas de renforcement, qui me disait que c'était nul, et à la fin de la journée de cours avec moi, il m'a dit « bon, j'ai essayé le renforcement ». Comme quoi, je dois être persuasif, sauf que il a fait l'erreur que font beaucoup, c'est-à-dire, plutôt que de commencer par la chaise, il a commencé par s'envoyer 1000 box jumps. Ok, donc autant vous dire, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, mais comme il avait beaucoup d'expérience en marathon, il s'est dit, moi je vais déjà faire ça. Non, si vous n'avez pas d'expérience, commencez par l'isométrique, puis faites des squats, puis après des squats en freinant la descente, puis après des squats sur une seule jambe, puis après des squats jump. Vous voyez, la chronologie, elle est quand même très très longue. Mmh. Ça, c'est à poids de corps.
1000.
Les exercices avec charge, je conseille. 1000, oui, je te jure, c'est vrai. C'était assez drôle a posteriori, mais au final, c'était pas très drôle.
Les coureurs, on a tous un problème psycho, je crois.
Hein. Ouais, je pense. Il y a un côté maso.
Non, mais c'est toujours plus. Ouais.
C'est ça. Puis comme il avait de l'expérience, qu'il avait fait du. Il s'est dit, attends, mais moi, je vais commencer.
Je suis solide. Hein,
oui, moi, mes jambes sont costauds, je vais résister, etc. Quoi. Ouais.
Exactement. Mmh. Et du coup, avec charge, les conseils, c'est des conseils très basiques, mais squat, alors privilégier les front squats, c'est-à-dire qu'avec une charge qui est devant plutôt que des back squats, parce que c'est plus spécifique aux coureurs, okay. Donc avec une charge qui est devant, la charge devant soi. Donc ça peut être aussi des goblet squats si vous faites avec une kettlebell. Après, il va falloir travailler principalement pour les coureurs et quelle que soit leur discipline, la chaîne postérieure, c'est-à-dire faire des soulevés de terre ou appelé aussi deadlift. Ça, c'est très très intéressant pour tout le travail de la chaîne postérieure médiane. Et puis, un exercice qu'on oublie assez régulièrement avec charge, nos mollets. Ça, c'est primordial de développer la force des mollets parce que je rappelle une chose, c'est que c'est le groupe musculaire qui perd le plus vite sa force. Il faut savoir que tout le monde perd de la force. C'est pour ça que c'est important de développer sa force. Et qu'au niveau des mollets, c'est là où on le perd le plus vite. Et même si ça fait des années que vous courez, très vite, peut-être que Yudu va confirmer ça, mais la blessure au niveau du tendon d'Achille ou du triceps sural...
Ça, il peut te le confirmer.
Ouais, elle est très importante et elle est souvent due à une perte de force très importante. Donc voilà les trois exercices. Et moi, je rajouterai un quatrième, c'est le hip thrust. Souvent, on le voit fait par les Instagrammeuses qui veulent développer leur fessier. c'est ça. Donc, avec charge, très intéressant. En fait, en vrai, il y a quatre exercices. Et puis après, une fois qu'on a développé sa force avec la charge, il mêlait très vite de la pliométrie. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites des squats, des front squats chargés très lourds, une fois que vous avez développé votre force, Vous couplez ça à des exercices de squat jump unipodal, par exemple 5-6. Alors, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, hein, déjà dans un premier temps, parce qu'il faut maîtriser le mouvement. Mais ça, c'est très intéressant. Mais pareil, en respectant bien la chronologie. D'abord, je maîtrise l'exercice. Comme l'a dit très très bien Marilyn, attention, il vaut mieux ne pas faire que faire mal un exercice, parce que là, ça va me donner tort, et ça, c'est très important. Mais une fois que l'exercice est fait, y mêler de la complexité en y mêlant de la pliométrie. Ça, c'est hyper intéressant, parce qu'au final, la course à pied, c'est de la pliométrie. Donc, c'est là où je rejoins à nouveau Yodu quand il disait, c'est bien de faire de la force, mais derrière, il faut pouvoir répéter l'exercice. C'est quand même ça le plus important.
Nico, est-ce que tu fais du deadlift ou du hip thrust?
J'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, là, je pense que tout ce qui a été dit est très intéressant, donc j'ai pas trop de choses à rajouter, mais non.
Tu vas en salle,
moi,
un peu, Nico?
J'ai du mal à aller à la salle.
T'as du mal, ouais.
Parce que le timing est un peu chaud, donc je fais souvent au poids du corps, mais en tout cas hyper intéressant, et je pense qu'en effet c'est hyper important. Moi, l'année dernière, quand j'ai fait le record du GR34, je pense que, et pourtant j'ai fait des bornes, je pense que ce qui m'a manqué, on a été au bout, hein, mais je pense que ce qui m'a manqué, c'était un peu de renfo, ce qui fait que j'ai combattu quand même des blessures durant les 25 jours. Donc non, c'est clair que ça paraît essentiel, tout ça, et en effet de faire du statique en mouvement, je pense que c'est la base, quoi.
Il y a plein de gens, Seb, qui sont encore un peu réfractaires à prendre un abonnement à la salle. Là aussi, on peut adapter les exercices. Et autre question, moi je pense, l'exemple concret, c'est de se mettre dans un endroit où il y a une marche chez soi et muscler les mollets. Mais la progressivité aussi de l'entraînement, parce que quand on commence, on multiplie les exercices, il faut monter progressivement. Il ne faut pas y aller fort d'un coup comme le marathonien que tu as croisé et qui finalement a dû sentir les mille répétitions.
Mais il les a tellement senti qu'il s'est blessé, d'ailleurs. Et du coup, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais au courant de ça. Et parce qu'il est revenu vers moi sur les réseaux sociaux en me disant, ouais, tu vois, je t'ai écouté, puis j'ai fait...
c'est ta faute, t'as pas dit le nombre.
c'est vrai. Non, mais pour revenir sur ta question et sur ce que disait Nico, c'est qu'effectivement, la plupart des gens se disent, moi, je veux juste courir, en fait. Donc Seb Cornette, il est gentil, mais il nous fait chier avec le fait de faire du renforcement. Sauf que j'ai adoré, parce que Nico a terminé en disant « j'étais au bout, mais je me suis quand même un peu blessé ». Et c'est de justement d'éviter la blessure. Un athlète qui ne se blesse pas, je le répète souvent, mais c'est un athlète qui progresse. Et ça, trop souvent, le coureur pense que la blessure fait partie de l'entraînement. Je me suis blessé. Quand tu t'es blessé, c'est souvent une charge externe que tu n'as pas identifiée qui est venue, ou un trop vite, trop fort. Et tu mets le point sur quelque chose qui est fondamental, c'est qu'effectivement, si on est d'accord que quelqu'un qui se met à la course à pied, on ne lui conseille pas d'aller faire tout de suite un marathon, c'est la même chose pour le renforcement. En fait. Quand tu ne faisais pas de renforcement, accepte de passer par du poids de corps, très bien, statique, puis après, fais des exercices. Tu disais, effectivement, tout le monde ne va pas à la salle. Et moi, je suis OK avec ça, et c'est valable. Moi, les athlètes que j'ai, je les envoie pas tous à la salle. Par contre, je leur demande d'acheter un outil qui s'appelle une kettlebell, que tout le monde peut à peu près acheter, avec des poids un peu différents, parce qu'on peut développer sa force à partir du moment où on a une charge externe, donc une charge qu'on va utiliser, hein, un poids qui peut
kettlebell,
être...
Kettlebell, c'est un poids avec un arceau. Hein. C'est assez drôle. Je précise juste, Seb.
Kettlebell, exactement, c'est un outil... exactement. Et ça, moi, je le dis en formation, tous les coachs qui se respectent devraient au moins maîtriser cet outil qui est fondamental. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a un poids additionnel pour faire du renforcement, ça va permettre de renforcer et de développer sa force. Alors oui, peut-être pas aussi objectivement que si on arrive à aller en salle avec un coach et qu'on fait bien le mouvement. Mais ceci étant, comme 80% des coureurs ne veulent pas aller en salle, au moins avoir cette petite outil. Ou alors, je voulais le dire, c'était pendant le confinement, moi j'avais des athlètes qui n'avaient pas de kettlebell, ils avaient quand même deux packs d'eau et ils arrivaient. Enfin voilà, j'aime bien dire celui qui ne veut pas trouver une excuse, celui qui veut trouver une solution. Donc oui, la charge additionnelle, elle est primordiale, et je le répète, pas uniquement pour les athlètes qu'on a là aujourd'hui avec nous, mais pour à peu près tous les athlètes. On trouvera toujours des exceptions, mais faire des exercices avec charge additionnelle, qui s'adapte au quotidien. Nico disait oui, bon ben moi ça rentre pas dans mon timing. En vrai, si ça rentre, il faudrait juste qu'il accepte de le faire différemment. Mais je le dis avec le sourire, évidemment c'est pas une critique, hein, Nico, mais c'est à peu près souvent la phrase qu'on va me dire quand je dis ouais mais moi j'ai pas le temps. En fait, t'as le temps de t'entraîner 5-6 fois dans la semaine. Donc
prends une de
course et tu te mets non c'était non, pas
plaisante,
Nico, c'est qu'en fait c'est souvent et tu et moi je l'entends souvent quand on me dit bon en fait t'as raison Seb, mais moi ça m'embête, donc je comprends, hein, et c'est pour ça qu'il faut rendre le renforcement ludique, mais en fait l'excuse du temps pour moi elle est pas recevable, parce que en fait c'est pas recevable pour deux raisons, c'est que ceux qui font du renforcement se blessent moins et sont plus efficients. Donc, si tu veux continuer à prendre du plaisir, surtout dans les terries comme il est à Nico, fais un petit peu plus. Enfin, fait, du renforcement, c'est vraiment primordial.
Voilà. T'as pris un bon coup de pression, Nico, là. J'espère que t'es content d'être venu.
Le pire, c'est que j'adore en plus, moi, ces séances-là. C'est juste qu'en effet, je ne prends pas le temps. Mais ça, après, au-delà de ça, je pense que la notion de temps, c'est pour tout en règle générale. C'est pour bien manger, c'est pour bien dormir. Donc, ça, c'est clair.
Exactement. Marilyn, toi qui as beaucoup d'expérience et qui es une athlète professionnelle, tu confirmes l'effet du renforcement musculaire sur tes performances et sur les fins de course, l'économie de course, comme on dit souvent.
Je ne sais pas si ça aide à être plus performant, mais en tout cas, je remarque que je suis peu blessée et que ça ne m'arrive pas souvent depuis que j'ai fait un peu plus d'attention à avoir un peu plus de muscles, entre guillemets, et avoir un peu plus de renfort musculaire.
Ouais.
Je précise, parce que j'aurais du mal à stocker des poids dans mon van, des barres.
Oui.
Et aussi parce que les douches chaudes à la salle, ça peut être bien.
Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, ça fait deux bonnes raisons. Et on pense à la pression tes pneumatiques. Hein, parce que si tu rajoutes des kettlebells de 15, 20 et 30 kilos...
Tu n'as pas beaucoup de place avec le vélo et tout le reste.
Ça on comprend bien, t'as bien raison. Yodu, toi tu sens un vrai effet renfort musculaire sur tes performances à moyen terme, je sais pas, sur une partie de saison?
Ouais, bah là tu sais, on en a discuté, mais après mon marathon, j'ai fait un peu le point là quand j'ai repris au mois de mars, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment perdu de la qualité de pied, que j'avais perdu de la force et que j'avais l'impression d'avoir un peu dégradé ma foulée et de plus me reconnaître quand je courais. J'avais l'impression que quand je poussais, bah il y a rien qui répondait, tu vois.
Ouais.
Et donc du coup, bah là on est reparti sur des distances objectifs plus courtes, tu vois, des 10 km pour retravailler un peu la VMA, la vitesse, les choses comme ça, mais aussi beaucoup plus de renfort avec beaucoup plus de côtes, d'escaliers, de travail comme ça, mais aussi également un peu plus de salles où justement je me suis remis à faire des vrais cycles de muscu, parce que voilà, c'est la période qui me le permet, parce que je suis pas en préparation marathon, je suis un peu en prépa entre deux eaux, donc c'est le moment pour moi de remettre tout ça, de remettre de la force, de retrouver du pied, de retrouver mon endurance de force et de retrouver ma foulée, tu vois. Ma foulée de, pas de pistard, hein, mais une foulée solide au sol, qui s'écrase pas, qui s'affaisse pas. Et ça, je pense que je l'avais perdu dans mes deux prépa marathon, où pour le coup, quand t'es un peu comme tout le monde, hein, quand t'es en prépa marathon, tu penses plus à la borne qu'à aller faire ton renfort. Tu le fais, mais c'est minimaliste. Tu le fais pour jusqu'à au moment où ça te charge musculairement, et quand tu sens que t'es flingué musculairement, bah t'enlèves tu diminues le renfort parce que tu veux être performant sur ta sortie longue du dimanche matin qui va te rassurer, tu vois. Donc c'est par période, et là moi pour le coup je suis dans une période où justement je suis venu à Font-Romeu aussi pour faire du dénivelé, pour travailler naturellement les côtes, les choses comme ça, pour retrouver de la force et retrouver un peu de musculairement être solide. Ouais,
Seb, je te sens en accord avec le discours de Yodu.
Oui, et puis en fait, je voulais totalement, et en fait, ce qu'est en train de dire Yodu, c'est que ce que tous les coureurs devraient se rappeler, en tout cas, et d'ailleurs, je parle pas uniquement des coureurs, hein, tous les sportifs devraient se rappeler, c'est qu'en fait, une qualité est difficile à développer, mais elle est facile à maintenir. Quand je dis ça, ça veut dire que là, Yodu est dans une phase de développement de cette qualité. Puis après, évidemment, dans le spécifique, quel que soit le spécifique, il faudra juste faire des rappels. Je tiens à rappeler que, justement, le travail excentrique, donc le freinage d'une charge, qui est inhérent encore plus pour les trailers, et quelle que soit leur distance d'ailleurs. Si vous avez développé la force de manière excentrique, c'est-à-dire une grosse charge très très lourde que vous avez freinée, eh ben, vous avez les effets pendant 6 à 8 semaines. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de rappel entre la dernière séance de développement de la force en excentrique puis les 6 à 8 semaines, mais ça dit une chose, ça veut dire que dans votre partie spécifique, effectivement, on va faire beaucoup moins de renforcement avec charge, mais on pourra faire tous les 10, 15, 18 jours, des petits rappels et passer dans la salle. Parce qu'on est dans le spécifique, parce que ce qui nous intéresse pour le marathonien, c'est de développer sa vitesse spécifique marathonien. Pour l'ultra-trailer, c'est d'utiliser ses bâtons, c'est la gestion de justement du temps en montagne, c'est son pace dans son rythme ultra. Mais pour autant, ben justement, il n'y aura plus besoin de mettre autant de séances de renforcement parce qu'on l'aura développé. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que prenez du temps, prenez 6 à 8 semaines pour développer cette une qualité, et après il sera plus facile de la maintenir. Donc là, ce que fait Yodu, et à nouveau, hein, je le coach pas Yodu, je pense qu'il est un super coach et que c'est ok, mais du coup, ce qu'elle rappelle, c'est que ça, et là, on a la chance d'avoir un athlète de très très haut niveau, mais ça doit être, c'est ça qui doit être copié,
oui, ça ne
et non pas le nombre
eux.
De bornes qu'il fait. Eh oui, voilà, ouais. c'est non, exactement.
Bon, un dernier mot sur la suite de votre préparation, Nico et Marilyn. Tu nous as dit, Marilyn, prochaine échéance, c'est donc Mozart 100 by UTMB, c'est début juin, c'est ça ?
C'est ça, oui, en Autriche.
On vise modestement la gagne, là aussi ?
Oula, non, on verra bien. Non. Je dis rien, on verra.
Okay,
j'espère faire un podium, mais peut-être pas la gagne. Je ne sais pas qui seront mes concurrentes encore, donc on verra.
Mais tu pars en mode compète ou en mode...
En mode compète quand même.
Okay.
C'est une grosse répétition générale avant l'UTMB.
Voilà, c'est la question que je me posais. Parfait. Bravo Marilyn. On espère que ça ira et que tu vas aller à la salle pour prendre des douches chaudes et laisser les poids comme ça à l'intérieur de la salle. Nico, quelle est la suite ? Est-ce qu'il y a des courses préparatoires qui sont au programme ?
Moi, ma course préparatoire, elle est plus loin, elle est le 29 juin, là, c'est dans les Ardennes, là, ça s'appelle Ardennes Mega Trail, avec 4000 de D+, et 80 km, donc c'est là où on va tester si ce qu'on a fait avant a payé, et puis entre deux, on va bien préparer tout ça.
Bon, magnifique, entre Mozart 100 by UTMB et Ardennes Mega Trail, tu me fais bien rire, toi, Johan, avec tes 10 km. Ah, c'est bon.
Elle rigole, tu l'es fait toi aussi, hein.
Oui, c'est sûr.
Moi, ça me fait plus peur de courir un 10 km que d'aller faire un ultra.
C'est ça qui est fou.
Et
je sais que mon ami Seb Cornette me dit toujours, tu sais, au final, quand on réfléchit, le marathon, c'est peut-être plus dur que l'ultra. Bon, c'est dur à envisager, mais ce sont des efforts complètement différents, c'est sûr. Un grand merci pour votre disponibilité et pour vos sourires respectifs. Merci Marilyn d'avoir été là. Merci Nico.
Merci
Bonne
beaucoup.
Suite de prépa. Merci Seb Cornette, t'es toujours le bienvenu dans RMC Running. Le choix musical fait par Johan Durand, c'est Oasis Wonderwall ce matin.
Bon, voilà, la météo, on est à Manchester, il pleut, fait froid, nord de l'Angleterre.
Non, on est à Lille sur un terri en train de répéter la même côte 100 fois.
Voilà. Allez.
Là, on y est. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir été là. Merci Maître Yodu. Et toujours ce conseil,
avec plaisir.
Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut. Feels the way I do about you now.